Je remercie Jean-Claude Schmitt et Marie-Claude Maria pour cette invitation et Patrick Guiri qui nous a mis en contact. C'est un honneur pour moi d'être ici et c'est un plaisir aussi de retrouver des amis et des collègues comme Michel Bagnard ou Pascal Bourguin qui nous ont beaucoup aidé dans l'entreprise du Corpus Rhythmorum Musicum. Et le titre que vous lisez dans le programme, c'est en anglais parce que le premier courriel que nous avons échangé avec Madame Formarier, c'était en anglais, c'est tout ça. Je chercherai, j'essaierai de parler en français et je m'excuse, je demande pardon pour le barbarisme et les fautes de prononciation de l'âme de mon texte. Vous avez les exemples. Il y a peu de jours, je m'excuse aussi pour la longueur, peut-être que ce serait un peu plus long que expliqué.
Vous avez déjà moitié pardonné.
Et à moitié bon.
Alors, il y a peu de jours, dans une fête entre amis où l'on s'échange des livres, j'ai reçu en cadeau le célèbre volume d'Aaron Gurevitch, Les catégories de la culture médiévale, que j'avais lu il y a presque 30 ans. Et en feuilletant dans sa nouvelle édition italienne, il m'est revenu à l'esprit le fameux essai sur Qu'est-ce que c'est le temps, où on analyse les conceptions du temps protestées dans la culture médiévale, en se basant soit sur les documents de la mesure concrète du temps, soit sur sources textuelles. On rappellera que Gurevitch puisse d'abord dans les sagas de langue nordique, dans la partie qui représente sa contribution la plus originelle, je crois. Ensuite, il développe une analyse de certains passages d'Augustin, Honorius d'Autun et Thomas d'Aquino, qui avaient été déjà utilisés par Jacques Le Goff dans son bref chapitre de la civilisation de l'Occident médiéval, dédié aux structures de l'espace et du temps. Dans ses représentations, Gurevitch observe une transformation de l'époque classique où prévalaient les symboles astronomiques et les figures humaines statiques, allô Moyen-Âge où on représente non plus des catégories abstraites, mais les travaux caractéristiques de chaque mois qui enserraient les activités humaines dans le rythme du monde céleste. Cette attention pour la visualisation du temps se combine avec un grand intérêt pour les problèmes de la chronologie. Donc il identifie des documents dans l'historiographie analytique, mais surtout dans les traités sur le calcul du temps, comme les chapitres de l'étymologie d'Isidore, le Delazione Temporum de Bède et les tableaux de fêtes ecclésiastiques aux dates variables. Ici, on définit soit les temps humains, soit les temps religieux, scandés sur les événements de l'histoire sacrée racontés par la Bible, par les vies des saints. Cette scansion ne venait pas projeter sur un espace mythologique, comme elle était dans les sociétés classiques, mais elle convergeait avec le temps terrain dans le temps de l'histoire, qui est différent du temps de Dieu, éternel et non mesurable. À cause de la pluralité de ces perceptions, le calcul médiéval du temps se fonde surtout sur la tentative d'harmoniser ou au moins de relier entre eux les différentes séquences temporelles. Calendrier agrève de saison avec sa variabilité locale et ses reflets sociaux. Calendrier astronomique avec ses racines anciennes et ses transformations chrétiennes. Calendrier liturgique, représentation du temps doué de sang qui rejoint une prescription sociale en fête et prière, commémoration hagiographique et célébration rituelle, à un horizon de sang religieux et ultra-temporel où chacune de ces séquences s'y projette pour devenir significative. En 2005, Jean-Claude Schmitt avait présenté un vaste panorama de travaux médiévistes sur le temps, en partant justement de réflexions qu'aujourd'hui on dirait séminales de Le Goff et Gurevitch. Dans son article, Schmitt avait souligné aussi qu'une des questions sur lesquelles on avait enregistré le plus d'avancement dans les études était l'histoire du mesurage. du temps. Les compétences qui mettaient en relation temps du travail, temps de l'univers et temps du sacré formaient ce que le Goff appelait une nouvelle science, nommée compute, computus, le domaine des études médiévistes sur le temps où l'on a réalisé les progrès les plus significatifs, je crois, grâce surtout à l'œuvre cyclopique d'Arnold Borst, aux recherches de Wesley Stevens et Alfred Cordoliani, au colloque organisé par Immo Vanties et Daniel O'Kroening. Selon son plus grand connaisseur, Arnold Borst, la computistique est la doctrine médiévale de l'utilisation, articulation et interprétation du temps dans la vie, de l'homme à l'intérieur du temps, dans la nature du monde. Elle oblige le vivant de toute époque à transformer le sentiment du temps dans la conscience du temps. Sous le parapluie du compute, ce que Charlemagne dans l'Ammonitio Generalis voulut inclure dans les matières obligatoires de sa réforme scolastique, se recueille donc la doctrine astronomique, avec attention particulière au cycle du Soleil et de la Lune, leur interférence et superposition, équinoxe et solstice, calcul des dimensions de l'ombre aux différentes latitudes, théorie des bandes climatiques, division de l'année ordinaire et bissextile, et en général science et histoire du calendrier civil et religieux, c'est-à-dire agéologique, articulation de l'horaire diurne et nocturne, doctrine de relation entre les saisons, les éléments et les humeurs qui ont en commun la quaternité. L'astrologie est même la méthode calculaire avec les doigts. Le calcul de temps devient un levier méthodologique pour le mesurage du ciel et de la terre, le noyau d'une connaissance globale de la structure de l'univers et des scansions de la vie quotidienne. Le point de départ est représenté par les écrits sur le compute pascal, c'est-à-dire sur les calculs de phases et cycles lunaires et solaires nécessaires à la détermination des dates de Pâques, qui commence avec le traité du pseudo-cyprien de Pasque Computo et avec l'ouvrage du milieu de Cassiodore Computus Pascalis, qui selon Max Leibowitz est la forme originelle des argumenta pascal et de Denis le Petit, le célèbre moine qui autour de 525 cerna avec une erreur de 4 à 7 ans la date de naissance de Christ. Bientôt, avec les informations sur les temps éparpillées dans les étymologies d'Isidore et recueillies dans les De Temporibus et les De Ratione Temporum de Bède, le compute se structure en authentique science du temps qui, comme l'écrit Bède dans le passage que vous lisez dans l'exemplier, s'efforce de coordonner temps naturel, temps de l'autorité et temps culturel, ou plutôt interculturel, étant donné qu'il harmonise, temperat, des données et sensibilités égyptiennes, grecques, latines et germaniques. Dans Bède, qui définit le compute comme la science ecclésiastique par excellence, on trouve la formulation explicite de la pluralité de temps du Moyen-Âge, que nous trouvons dans que Le Goff et Kurevich, sur les sillages du philosophe Herder, avaient compris par intuition. Après Bède, les traités sur le temps se multiplient en remaniant les matériaux connus ou en les croissant avec des développements autonomes. Un de ces traités, le Dialogus de Computo, tiré en partie d'Isidore, s'ouvre avec une proposition d'herméneutique du temps qui cherche de mettre le compute en relation avec la conception augustinienne, qui n'est pas dans sa formulation la plus célèbre, celle de l'onzième livre de Confession, mais adapte forcément un passage du De Genesis ad litteram où Augustin distingue les quatre sens de l'écriture analogique, littérale, allégorique, morale. Le computiste écrit que les quatre divisions de l'écriture qui selon Augustin sont indispensables dans l'église de Dieu sont les canons divins dans lesquels la vie future est racontée. Les canons, c'est le choix du livre de la Bible. L'histoire qui compte les événements, le nombre, c'est-à-dire en latin le rythme, dans lequel sont calculés les faits à venir et les fêtes divines, et la grammaire qui inclut la science des mots. Le centre de l'écriture devient donc paradigme d'approche différent au temps de l'histoire sacrée. Le dialogus et les autres textes qui entreprennent les lignes directrices de l'azione computandi computus ecclesiasticus secundum Augustinum augmentent la puissance religieuse du compute qui, né comme méthode pour les calculs de la date de Pâques, s'étend en méthode d'interprétation numérique du temps et de l'univers sur la base de l'écriture sacrée. C'est pour ça que le rappel Borst, certains évêques, en particulier dans la France occidentale, demandaient à leurs prêtres la connaissance du computus, qui entraînait une technique alphabétique pour rappeler les dimanches, les positions de la lune, les épartes, les concurrents, les jours de la semaine, les périodes de jeûne, la période de Pâques et les fêtes de l'année. L'importance croissante du compute dans la culture carolingienne est attestée par un poème composé justement dans la France occidentale qui représente une sorte de mythisation littéraire de l'étude de cette doctrine en tant que clé d'accès au savoir chrétien, car il présente son apprentissage, l'apprentissage de techniques de calcul du temple, comme un voyage dans une forêt et une épreuve héroïque à surmonter, parmi beaucoup d'obstacles, pour conquérir la dignité presbytérale représentée par une coupe de savoir. C'est une chose qui aura une certaine fortune après. Ce poème est de Fonte Vite, de Odradus Mondicus, qu'on révèle le sens, qui, autour de la moitié du 9e siècle, raconte une quête d'une coupe de sagesse, articulée par le refrain que vous trouvez dans l'exemplaire Incipe nunc mecum celestis gratia carmen, eterni fontis scifi pascalis et orbe. Commence maintenant avec moi, grâce du ciel, le chant de la source éternelle, de la coupe et du temps de Pâques. Nos connaissances du compute ont été tout au coup profondément enrichies grâce à l'édition de dizaines de traités, jusqu'à présent inédits ou introuvables, publiés en 2006, après 30 ans de recherche par Arno Borst, dans trois grands volumes des Monumenti Germani Historica, avec le titre de Schriften zur Computistik im Frankenreich von 712 bis 880. Cette massive introduction de matière, pas encore métabolisée par la médiévistique générale, est destinée à modifier complètement notre connaissance non seulement de la computistique, mais de l'histoire de la science. Car le soi-disant libre compoti carolingienne, donc Borst a publié pour la première fois il y a 6 années, dont dérivent ultérieures élaborations, est en réalité une encyclopédie scientifique en 7 livres, dont l'analyse entraînera, selon Borst, une révision de nos convictions sur le développement de la science au Moyen-Âge. Parmi les nouveautés que Borst signale, mais dont il ne publie qu'un exemple, parce que sa reconnaissance s'arrête à certaines années, ce sont les compositions en vers de support à la computistique qui reprirent et développèrent les poèmes de Walafrid et de Vandenberg récemment retrouvés et déchiffrés. Il s'agit d'un genre de poèmes didactiques qui présentent des synthèses mnémotechniques de doctrines liées au compute. Nous en avons des attestations en vers métriques, comme celles mentionnées par Walafrid et Vandenberg, ou celles découvertes par Künzgen en 1979, de Agius de Corbeil. Mais la majorité de celles-ci est écrite en vers rythmique, c'est-à-dire syllabotonique, basée sur le nombre de syllabes et la séquence d'accent typique de la versification moderne. Le volume 4e de Poète latini Evi Carolini, publié par Karl Streck, présente une édition soignée de rythmi Evi Merovingici et Carolini, 152 textes rythmiques qui n'excluent que les hymnes, un recueil dont le nombre de textes et de manuscrits a été agrandi par les découvertes suivantes. Parmi ces rythmes, au nombre de 108 jusqu'à 120, On trouve un groupe de compositions très répandu sur le compute, les calendriers, le zodiaque. Un noyau de rythme sur le rythme du temps, qui rencontre deux fois le thème de ce colloque. Dans les années 60, Alfred Cordoliani en a mis en relief beaucoup d'autres, en documentant l'impressionnante diffusion manuscrite, centaines de manuscrits partout l'Europe. Wolfgang Hirtenkauf et notre groupe de travail du Corpus Rhythmorum Musicum avons récemment découvert que ces aides mémoires étaient souvent chantées et transmises avec la musique. Cela signifie qu'à l'école, on les apprenait comme chansons pour mieux les mémoriser. Mais qu'est-ce que signifie le terme « rythmus » utilisé par le monumenta pour indiquer ce genre poétique? Dans ce contexte, il indique le poème bref ou long composé selon le principe de la versification rythmique, principe qui, après Bède, sont le nombre constant de syllabes, la succession des accents et éventuellement, après, la rime, comme on le sait, est un terme dérivé de rythmus, rythme. Mais la signification originelle du mot est moins univoque et a suscité de longues enquêtes, surtout de la part de musicologues tels que Crocker et Fassler ou de métricologues tels que Dago Silvio Avalle, Dag Nürnberg et Pascal Bourguin. Avalle en particulier a publié en 1992 un recueil commenté de 25 textes classiques. Classique de l'Antiquité tardive au Moyen-Âge concernant la définition de rythme. Un recueil dans lequel les spécialistes ont souvent puissé. Mais il suffit de penser que dans le seul Corpus Grammaticorum Latinorum de Caille, on trouve bien 411 passages avec le mot rythmus, et on comprendra qu'aucune de ces enquêtes ne peut se définir exhaustive, mais pas non plus traductive. Et la mienne moins que les autres, naturellement. Rhythmus existe déjà dans un fragment de Barlon, dans les sens de cadence rythmique, mais on trouve le premier développement substantiel dans le livre 9e de Quintilien, bien étudié par Marie Formarière, dont beaucoup d'acceptions médiévales dérivent. Quintilien, en se référant au rythme de la prose, établit une distinction entre composition métrique caractérisée par la disposition de pieds et par leur quantité et composition rythmique marquée seulement par le spatium temporum, la durée de temps, et par la qualité, c'est-à-dire le type de séquence. Le rythme peut avoir des pieds métriques, mais leur position est indifférente, parce que tempus enim solum metitur ut ad sublazione ad positionem idem spatii sit. Dans le rythme, on ne mesure que la scansion, qui doit être régulière, car de l'arsis à la thésis, c'est-à-dire de la syllabe atone à la tonique, il faut qu'il y ait la même durée. En outre, les rythmes ont des espaces libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une extension non définie. Les mètres, au contraire, sont définis et font des clusures spécifiques, tandis que le rythme continue jusqu'à la métabolée, le passage à un autre type de rythme. Mais surtout, le maître ne consiste qu'en mots, tandis que le rythme consiste aussi dans le mouvement du corps. Maître in verbis modo, rythmos etiam in corporis modo. Dans les nombreuses études sur ce sujet, personne n'a souligné l'importance de cette expression sur l'aspect physique du rythme, qui sera repris à la moitié du IVe siècle par celui que tout le monde mentionne comme Marius Victorinus, mais qui est en fait Aftonius Demetris Omnibus. Rhythmus est pedum temporum iuntura et etc. Vous pouvez le lire sur le templier. Mais differet autem rhythmus a metro quod metrum in verbi. Rhythmus in modulazione ac motu corporis. Mouvement du corps. Cette simple remarque aurait été suffisante à remettre en question la théorie de Dag Nürnberg, le plus important spécialiste de versification latine médiévales, qui parfois sont répétées passivement sans être vérifiées. Pour les sources les plus anciennes, donc, le rythme s'est défini par la modulatio, qu'il faut traduire avec mesurage, ce qu'entraîne un battement rythmique, et pas avec modulation, terme moderne qui entraîne des procédés harmoniques. La preuve en est que cette modulation se met en évidence par le mouvement du corps, c'est-à-dire par la représentation corporelle de cette allure régulière. La première véritable définition arrive au début du quatrième avec l'ars palemonis demetrica institutione, qui donne la définition que vous trouvez là. Encore une fois, modulata composition, non metrica ratione, sed numerosa scansione ad judicium aurum examinata, c'est-à-dire avec une scansion rythmique. Ut puta veluti sunt cantica poetarium vulgarium. Cette célèbre définition, citée par tous les orants, sera reprise par Audax dans les excerpts de Scaurus et Palladius, 4e, 15e siècle, par Bède dans son De Arte Metrica, qui ajoute de sa part, en tant qu'artistique du nouveau verbe, le nombre de syllabes, et ensuite par le musicologue Aurélien de Réaumé. Entre-temps, notre éclaircissement décisif avait été donné par Augustin, qui n'utilise pas le terme rythmus, mais comme l'avait suggéré Quintilien, son équivalent latin numerus. Dans le De Musica, qui est tout consacré, comme vous savez, au concept de numerus en tant que clef d'interprétation du monde, le génie d'Hippon explique qu'un exemple de numerus perpetuus, c'est-à-dire de rythme infini, se produit lorsque les musiciens battent avec leurs pieds les semelles sonores et les cymbales par des coupes régulières qui se succèdent pour les plaisirs des oreilles sans interruption, de façon à ce que si l'on n'écoute pas les trompettes, on ne peut pas remarquer jusqu'à quel point arrive la synchronisation de pieds et à partir d'où cela retourne de nouveau au commencement. De ce passage de la discussion analytique qui le suit, il semble interpréter que par rythme et numerus, Augustin entend ici une séquence de pieds dépourvue d'une limite de dimension, comme l'avait dit Quintilien. La comparaison s'établit de nouveau avec quelque chose qui entraîne le mouvement du corps, une sorte de danse rythmique, et si possible, la musique aussi. Autrefois, peut-être que des passages comme ceci ont pu produire des difficultés d'interprétation, mais aujourd'hui, je crois qu'on peut bien entendre la référence si l'on passe à la séquence de pulsations régulières et indéterminées du rap. Cette fois, je crois que ce n'est pas l'Antiquité qui nous fait comprendre le présent, mais c'est le présent qui éclaire les pratiques anciennes dont on avait perdu la sensibilité. Notre auteur, qui en général n'est pas assez considéré dans les études de poésie, et Marcianus Capella, dans le 9e livre du mariage de philologie et Mercure, comme dit Fondation Aristide, Quintilien s'occupe, comme vous savez, d'harmonie, c'est-à-dire de musique, et dédie beaucoup de paragraphes au rythme en le définissant une composition, j'essaie de traduire le passage que vous avez là en latin, une composition formée de rythmes perceptibles, structurés sur un schéma donné, est une séquence donnée qu'on peut nommer articulation séquentielle de différentes unités finalisées au temps selon le critère de pulsation par élévation ou baisse de la voix, de façon qu'on nous oblige à une règle et nous empêche un battement irrégulier. Capella part donc de temps perceptible à travers l'élévation ou la baisse de la voix et spécifie qu'on reconnaît chaque rythme par la vue à travers le mouvement du corps, par lui à l'écoute de la rythmique, par le toucher lorsque les doigts sentent le battement des veines. Capella fait référence si bien au rythme de verbe métrique qu'au rythme du discours et en bref au rythme en général. Qu'y a-t-il de plus explicite, je crois, que cette définition pour confirmer que la versification rythmique n'était pas une imitation du maître, comme le pensait Norbert, ni qu'on l'a laissé comme prose. Une seconde caractéristique qui émerge avec évidence de ce témoignage est la connotation sociale de la poésie rythmique. Vous n'êtes pas d'accord, Michel?
Si, si, si. Ça se met à discuter, non, pour la journée.
Le rythme est l'expression de la culture populaire, souvent associée à vulgares poètes. Nous avons vu que dans l'Ars Palemonis, Que l'art rappelle le chant des poètes populaires comme maître de comparaison pour éclaircir ce que rythme signifie. Dans le même 4e siècle, le grand Meyrère, Servius Honoratus, en commentant le géorgique, relit les vers de Julien, versibus incomptis ludunt o Saturne, quod ad rythmum solum vulgaris componere consuerunt. C'est-à-dire un vers que le poète populaire s'était habitué à composer en forme exclusivement rythmique. Autour de 680, Julien de Tolède conseille à son correspondant Modoenus d'éviter la composition de poèmes rythmiques et d'utiliser le rythme, rythmis utile, quod plebeges et solitum, ce qui est une habitude de poète vulgaire, des populaires, qui sont un genre populaire. Mais cette collocation émerge de plus en plus souvent au Moyen-Âge, en parallèle avec l'association rythme-musique, qui à partir d'Aftonius se trouve documentée dans l'évidence de pièces que nous avons éditées dans le corpus rythmorum musicum. Cette perception de nouveau inculte est confirmée vers la moitié du 9e siècle par les attestations de Paul Alvar de Cordoba, qui sont rappelées d'habitude par la littérature sur ce sujet. Au début du 8e siècle, Bell écrit que la régularité du rythme, qui, comme nous l'avons vu, est une régularité performative et non théorique, peut se réaliser de façon cultivée ou de façon populaire. Sono et ipsa modulazione ducente quem vulgares poete necesse est rustice, docti facent docte. C'est-à-dire le rythme, on le peut faire de deux façons. Au plein Moyen-Âge, rythmus est associé à des compositions obscènes et jongleresques, si on peut le dire. Comme nous lisons dans le sermon 49 du duc de Saint-Victor, rythmicis quoque dictis nefari risibus et cacinis domum dei profanant, son spectacle dans les églises, spectacle abusive, et dans les collectanes in paulum de Pierre Lombard, où on parle aussi de rythmica scurrilitate ridentur. La troisième caractéristique du terme rythmus qui ressort de source est l'association de son aspect performatif à l'exécution musicale, vocale ou même accompagnée par des instruments. Nous avons vu les références de Quintilien, Aftonius et Marius Victorinus, Augustin et Marcianus Capella au motus corporis, qui fait penser au battement du doigt ou à une danse. Et même la définition de Cassiodore qui fait référence au sonus nous reconduit à cette interprétation. Mais les propos émergent avec une irréfutable clarté en trois passages que jusqu'à présent les études sur le rythme n'ont pas examiné. Le premier, référable au rythme en tant que chant, se trouve dans les musiques de Rémy d'Auxerre, un commentaire dans un livre de Capella, où il écrit « Musica numero constat, sola tamen humana vox, propria dignitatem rationabilitatis, rhythmus vocatur ». Au siècle suivant, le de musique attribué à Odon de Cluny reprend la classification de Cassiodore sur la rythmica en spécifiant l'accompagnement des instruments à cordes. Et dans l'exposition in psalmos d'Honorius Dautin, Honorius Dautin rassemble les deux caractéristiques de l'isosyllabisme et de l'exécution musicale pour expliquer la structure poétique de psaume, en écrivant « rythmi circet cantus » certo syllabarum numerum compositi fidibus citare apti. À ce stade de l'évolution poétique ou de leur conscience, les rythmes sont donc ce que Dante nomme canciones, je crois, et qu'aujourd'hui sont appelés chansons, textes versifiés à accompagner avec la guitare ou la cithare, d'origine populaire mais susceptible d'un registre plus cultivé. En effet, parmi les poèmes rythmiques qui nous ont été transmis par la tradition, il y en a beaucoup qui sont accompagnés par la notation musicale. Ceux-ci sont l'objet de l'édition papier digitale du corpus Rhythmorum Musicum. Ces mises en musique démontrent justement une nature performative de chansons plutôt que de simples textes que ces compositions comportaient, avec toutes les conséquences que cet aspect entraîne pour les dynamiques de compréhension et de transmission qui activent des mécanismes d'oralité et en même temps de musicalité. Et d'habitude sont étrangers à beaucoup de genres littéraires médiolatères. Un des textes mis en musique le plus répandu est Anni Domini Notanto, formé de 186 quindécennaires, septennaires rythmiques, attribués d'abord à Denis en tant que père du compu, puis à Bède, auteur du temple de l'oration sur lequel il se base, enfin à Pacifique de Vérone. Attribution due aux éditeurs Mercemann et Alta. Il est transmis par une douzaine de manuscrits, dont les plus anciens viennent de Laurentiana Plutus, 1639, Lyon de Vérone, et daté à l'an 817. Ce rythme est en train d'être publié dans le corpus digital, mais des questions qui le concernent sont encore en discussion. D'abord, l'attribution. Pacifique est un mystérieux personnage auquel la tradition fait remonter une extraordinaire activité de transcription de manuscrits, une série d'interventions architectoniques dans la ville de Vérone et de nombreuses interventions même techniques. Pacifique est aussi l'auteur de deux poèmes rythmiques. Le plus important est le rythme 117 strecche, Spera Celi Duodenis Signis Circumvolvitur, que vous avez dans l'exemplaire, en tercet de quindécennaire rythmique, signé par un Humilis Levita Christi Editis Irenicus, Humilis Levita Christi Editis Irenicus, où Irenicus est la translation grecque de Pacificus, Pacifique, et Humilis Levita est une formule attestée pour Pacifique même dans d'autres documents. Il s'agit d'un petit poème sur les zodiaques, comme il commence à se développer à l'époque de l'Anthologia Latina, et se multiplie au Moyen-Âge en correspondance avec des enluminures ou des tableaux de cercles célestes avec les signes zodiacales sur la succession de mois, comme c'est auquel se référait Aaron Gurevitch. Le texte qui s'inspire d'un sermon de Zenon de Vérone a une importance, à mon avis, extraordinaire, car pour la première fois, en poésie, il présente une tentative de christianisation du système astrologique païen, basé sur le principe de la contestation antipaïenne exprimée par Isidore. Les noms de 12 signes dérivent de Fabule Gentilium, en attestant la sève de Dementia, la folie des païens, qui ont réuni dans le ciel tant d'animaux différents, tandis que l'Olympe est habité par le troupe des anges. Tout le monde le sait. C'est pour ça que Pacifique les réinterprète l'un après l'autre. Le taureau n'est pas celui dans le corps duquel Jupiter transporta Europe, mais le symbole du Christ que l'évangile de Luc définit comme le veau engraissé pour le sacrifice, en signifié analogue à celui de l'âne correspondant au bélier avec lequel commence le zodiaque, donc ce n'est pas une bête torve, menaçante et superbe, mais un animal doux comme le veau. Ce taureau nous invite, avec les ailes poignantes, à nous soumettre au jour du Christ pour labourer le terrain de vice et y ensemencer les préceptes du Christ. Le renversement du signe est donc du symbole d'une extension du temps débouche sur une nouvelle interprétation globale sur le plan du sens allégorique du caractère de la destinée qu'il nous communique. De la même façon, les Gémeaux représentent les deux testaments. Le Cancer représente les vices à éviter. Le Lion est le Christ endormi dans la mort et réveillé pour la victoire. La Vierge est le sixième signe du zodiaque, puisque le Christ naît dans le sixième âge du monde. En portant la balance de la justice, comme il convient à un dieu, auquel, si on s'approche avec bon cœur, on n'aura pas peur du poisson du scorpion, ni des flèches du sagittaire chevalin, symbole du diable, et l'horrible capricorne rendra fou d'autres personnes en les rendant homicides et adultères, mais pas les chrétiens. À ceux qui se montreront convertis, le candide verso essuiera de son front les fautes spontanées ou inspirées du diable, tandis que les poissons représentent les deux peuples, hébraïques et chrétiens, appelés au salut du baptême. Les hébraïques ne sont pas appelés au salut du baptême,
c'est pas mal.
La liste circulaire, devenue presque une narration par symbole, se termine avec une invitation aux chrétiens afin qu'ils s'éloignent de la folie de croire qu'au ciel il y a des êtres mortels et d'adorer des signes vides d'animaux alourdis du poids de la chair, ainsi qu'à comprendre qu'au ciel il y a au contraire le médiateur entre Dieu et les hommes et les âmes de bienheureux. La dernière strophe rappelle que comme tous les 19 ans, la lune revient au monde. Point de son cycle, autant de strophes à composer pacifique. Et ça pose des problèmes parce que les strophes sont vantaines. Au même auteur, on attribuait à l'unanimité un poème plus bref, le difficile rythme 116, strec, un septe tercé, dont l'incipit est Spera celi quater senis oris dum revolvitur, qui est aussi dans l'exemple, description de, la première horloge nocturne de l'histoire. Et dans ses récentes études, Joachim Wiesenbach a reconstruit comme l'antécédent du soi-disant astrolabe de Gilbert d'Aurillac. Le fondement de l'attribution est non seulement la mention de cette horloge dans l'épitaphe rythmique dédiée à Pacifique dans la cathédrale de Vérone, que vous lisez dans la. Dans l'exemple, il y a une photo, et à la sixième ligne, on parle de ce horologium nocturnum. Mais la ressemblance avec le rythme zodiacal signé par Pacifique. Ce rythme a eu une considérable fortune, même au niveau iconographique et scientifique. Né des exigences de moines qui devaient connaître avec exactitude les moments de prière nocturne, ce rythme, la dernière page, décrit le tableau. À travers lequel on réussit à déterminer l'heure en regardant à travers l'instrument tubulaire l'étoile de référence que Wiesenbach a identifié avec la Camelopardis 32H et que Pacifique appelle computatrix, terme inventé par lui mais qu'on retrouve ensuite dans des textes et des illustrations indépendamment de son rythme. Comme vous voyez dans la représentation du manuscrit d'Avranches, l'étoile proche de la polaire à la tête du char plaustrum est appelée computatrix. On peut le lire dans la photocopie aussi avec un peu de patience. La méthode appelée argumentum, comme dans toute tradition computistique, enseigne à tirer une ligne droite vers l'instrument tubulaire axiale et à tracer un cercle autour d'une croix en créant aussi quatre cadrans correspondant aux quatre saisons. Aussi, dans cette description qui concerne un système technique visuel et non mental, de la même façon que le rythme sur le zodiaque, l'auteur cherche à christianiser un système technique en utilisant la croix en tant que rappel à l'horizon religieux dans lequel même la détermination du temps trouve son centre. Le troisième et plus long poème, celui qui entrera dans le corpus rythmorum-musicum parce qu'il a été mis en musique, c'est Anni Domini 80, l'unique qui a un contenu strictement computistique, car il versifie une synthèse du De Ratione Temporum de Bede. Cette synthèse s'appelle Opus Exceptum ex Libro Computi et est attribuée par des savants à Pacifique aussi. L'attribution est disputée et probablement le poème n'est pas de Pacifique, mais par personne, cependant, ne met en doute la paternité pacifiquienne des deux rythmes, le zodiaque et l'horloge nocturne. Et donc, l'intérêt de Pacifique pour le mesurage du temps et pour son interprétation culturelle. Cet intérêt est célébré justement dans l'épitaphe rythmique de la cathédrale qui énumère tous ses mérites en tant qu'expression de sa génialité. En 1995, l'historienne Cristina La Rocca a cherché à démontrer que cet épigraphe rythmique, tout comme l'autre annexamètre qui l'accompagne, et qui reproduit l'épitaphe d'Alcuin, ont été réunis et peut-être composés au XIIe siècle pour accréditer le mythe d'un Pacificus carolingien, inventeur, architecte, directeur d'un scriptorium et sculpteur qui, selon elle, servait de référence idéale pour l'actuel évêque Théobald. Malheureusement, l'avocat a, pour ainsi dire, oublié d'insérer dans son enquête justement les ouvrages même de Pacifique, c'est-à-dire les poésies. Cette attestation, datable sans doute au 9e siècle et non au 2e, semble étayer les données archivales et épigraphiques qu'avaient conduit Ada et Mersema, Augusto Campana, Claudio Leonardi, Rino Avesani et Gabriel Silaghi à croire aux activités de Pacifique dans les dates connues. 803-834. La thèse de la Rocca, comme toutes les thèses révisionnistes qui renversent les convictions enracinées, a trouvé une certaine appréciation chez le médiéviste anglo-saxon. Mais elle a été soumise à des fortes critiques des spécialistes d'histoire véronaise du haut Moyen-Âge, qui se sont fondés justement sur la connaissance de la documentation poétique pour confirmer le portrait traditionnel du Pacifique. Il est possible que sa figure ait été mythisée pour renforcer son identité historique au XIIe siècle, et surtout à l'époque moderne. Mais ce remploi n'est pas suffisant à démontrer le manque de fondement des données historiques arrivées jusqu'à nous, ni à réfuter l'attribution de ce texte. Donc, le rythme sur le compu documente la diffusion scolastique et la transposition chantante des traités technico-philosophiques qui, depuis Bède, relient calcul du calendrier et conscience de la pluralité et de la polysémie du temps humain et divin. Sur cette base, les poèmes de Pacifique sur leur zodiaque et sur l'horloge nocturne attestent une nouvelle évolution du niveau d'autoconscience culturelle et une élaboration littéraire du sentiment du temps qui mérite d'être analysée en tant qu'un précieuse courroie transportée entre connaissances intellectuelles, représentations iconographiques et usages concrets. Mais pour cette analyse, il faut une collaboration structurelle, je crois, entre paléographes, philologues, experts dans l'humilure, mathématiciens, historiens de la science, qui ne lassent pas les historiens documentaristes tout seuls dans le déchiffrement de réalités et de témoignages extrêmement complexes. Merci.